parfaitement tout le passage sur lequel je prêche depuis déjà aujourd'hui 5 dimanches. Et également, c'est dans cette direction que la prédication d'aujourd'hui va aller également dans la direction de ce chant, frères et sœurs. Nous voyons le chant qui reprend les armes spirituelles du croyant. Il parle de la justice qui est notre armure, la foi qui est notre bouclier, la vérité que nous avons pour ceinture, frères et sœurs. Et il parle à la troisième strophe de cette épée invincible que représente la parole de Dieu selon le passage. Il faut bien voir comment le Saint-Esprit, dans un deuxième degré, inspire l'auteur de ce chant pour l'aider à mettre en parole ces propos de Saint Paul que nous trouvons dans Éphésiens chapitre 6, les versets 10 à 24, frères et sœurs. Et remarquez bien qu'à partir de l'avant-dernier couplet, et jusqu'au dernier couplet lui-même, l'homme de Dieu, inspiré par le Saint-Esprit de Dieu, nous rappelle l'espérance chrétienne, la victoire que nous avons en Christ au terme de notre pèlerinage sur cette terre, lorsque nous aurons fini de combattre, lorsqu'il dit sous la bannière immortelle, les cœurs en haut, nous marchons de la patrie éternelle, pas à pas, nous approchons. Suivez le message et vous allez redécouvrir cette pensée, cette ligne de pensée que nous trouvons dans ce cantique. Et au dernier couplet, il dit, après la lutte suprême, la couronne nous attend et ce sera Jésus, le Rédempteur, le Sauveur du monde, le chef et le consommateur de notre foi qui mettra cette couronne sur notre tête, et il ne le fera pas sans prononcer une parole de circonstance où il nous dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. C'est là notre espérance, frères et sœurs. Ayant chanté ce cantique, je ne veux pas allonger les choses. Ainsi, nous nous garderons aujourd'hui de lire toute la péricope. Habituellement, je lis toute la péricope, c'est-à-dire de verset 10 du chapitre 6 de l'épître de Saint Paul aux Éphésiens jusqu'au verset 24. Mais ayant chanté, nous allons lire seulement le verset 17 d'où est tiré et où nous voyons l'arme spirituelle sur laquelle nous allons prêcher aujourd'hui, à savoir le casque du salut. Ça va, frères et sœurs? Le casque du salut. Dieu nous donne un casque du salut. N'oubliez pas, ce message rentre dans le cadre d'une sous-série qui parle de glorifier Dieu en nous revêtant de l'armure de Dieu. Pas oublier ça. Nous avons déjà prêché sur les quatre premières armes spirituelles, à savoir la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, la chaussure que donne l'évangile de paix. Nous avons prêché sur la foi comme bouclier. Et aujourd'hui, le Seigneur nous fait la grâce de pouvoir l'entendre parler à nos cœurs. Et bien sûr, cette cinquième et avant-dernière arme spirituelle que représente le casque du salut. D'abord, un mot sur l'origine de cette métaphore. La métaphore, comme les autres, la ceinture de vérité, la cuirasse de la justice, et encore comme les autres, Paul tire cette métaphore, cette image, cette façon de nous encourager à la foi. Il le tire de la réalité de son temps. Il tire cet enseignement, cette métaphore de la réalité de son temps, où le soldat romain, frères et sœurs, avait besoin d'un casque pour se battre, pour partir en guerre. Ça lui prenait un casque. Et il avait un casque habituellement en métal. Si le casque n'est pas en métal, eh bien, le casque est en cuir, mais il est revêtu, eh bien, de métal. Et chez les Romains, le casque métallique ou en cuir et en métal, les deux ensemble, eh bien, servait à protéger les soldats romains, hein, contre les flèches. Et lorsque nous parlons de protéger les soldats romains, nous voyons en particulier la protection de la tête du soldat. Mais la fonction première du casque chez les Romains, ce n'était pas de protéger les soldats contre les flèches, c'était plutôt de les protéger contre une épée à double tranchant. Une épée à double tranchant qui est l'équivalent en longueur à peu près de longueur d'un bâton de hockey. C'était très long, cet instrument-là. Lorsque les soldats romains se battaient contre les autres, ils utilisaient cette épée à double tranchant, eh bien, pour perforer la tête, eh bien, de ceux qui se trouvaient en face d'eux, en terrain de guerre. Et dans le domaine spirituel, et Paul nous rappelle que de même qu'il était important pour les soldats romains, eh bien, d'utiliser ce casque, le casque contre l'épée à double tranchant et à l'occasion contre des flèches, eh bien, il est nécessaire pour le chrétien de porter un casque. Mais le casque du chrétien, ce n'est pas un casque métallique ou un casque en cuir combiné avec du métal, mais c'est le casque du salut, frères et sœurs. Hein? Et Paul nous a déjà rappelé ailleurs, l'Écriture nous a déjà rappelé ailleurs dans d'autres passages, et lui-même, Paul l'a fait dans ce passage, que le malin essaye de nous détruire, de nous détourner de nos objectifs. Il essaye de nous attaquer, de contrecarrer notre vie spirituelle, nos projets, nos plans. Paul nous dit, ça nous prend un casque parce que l'ennemi est prêt à nous frapper à la tête. Est-ce que ça va, frères et sœurs? L'ennemi est prêt à frapper votre famille, pas à la tête. Il est prêt à vous frapper à la tête. Vous avez besoin d'un casque. Est-ce qu'on a besoin d'un casque ce matin? Amen. Toute la question maintenant est de savoir à quoi se rapporte le mot salut ici. Il y a beaucoup d'explications qui ont été avancées là-dessus. Nous ne sommes pas en étude biblique. Je n'aurai pas le temps de passer en revue toutes les approches qui ont été faites, tout ça qui dit sur la nature de ce salut. Je vais aller directement avec ce que je crois, qui est la nature de ce salut. OK, frères et sœurs? Lorsque l'apôtre Paul s'adresse aux frères et sœurs d'Éphèse et leur dit, revêtez le casque du salut, au verset 17, prenez aussi le casque du salut, eh bien, il n'est pas en train de leur dire, convertissez-vous. On sait que le salut ne réfère pas au salut initial. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Parce que les gens d'Éphèse, ce sont des chrétiens. Paul dit d'eux qu'ils sont enrôlés dans l'armée du Christ, dans l'armée de Dieu. Ils ne peuvent pas être des soldats de Dieu, du royaume de Dieu, sans être chrétiens, sans être déjà sauvés, sans avoir déjà la vie éternelle, sans avoir déjà le salut. Donc, il n'est pas question de dégager, entrer dans l'évangile. Comme quoi ce serait ça, le sens de casque du salut. Donc, une fois dit ça, dit cela, le problème est réglé automatiquement, frères et sœurs. Le casque du salut que l'apôtre Paul demande aux frères et sœurs d'Éphèse et à vous et à moi de porter, eh bien, ici, c'est deux aspects qu'il y a là-dedans. D'abord, c'est le salut passé, le salut que Dieu a déjà accompli en faveur de chaque chrétien. C'est ça que Paul dit qu'il faut revêtir, qu'il faut prendre et nous mettre sur la tête. La question maintenant est de savoir comment pouvons-nous prendre un salut que nous avons déjà et le mettre sur notre tête. Ça va, frère et sœur? Mais j'y arrive. Et le deuxième aspect du salut, de l'injonction, de l'encouragement de Paul, lorsqu'il nous dit « prenez le casque du salut », il est en train de nous dire « espérez dans le salut ». Est-ce que l'Église est là? On peut faire ça sous forme d'enseignement ce matin. Paul, lorsqu'il nous dit « prenez le casque du salut », il nous dit « ayez l'assurance de votre salut », premièrement. Et il nous dit aussi « espérez en votre salut ». Est-ce que ça va, frères et sœurs? Ayez l'assurance de votre salut. Il parle de salut comme étant un accomplissement, quelque chose qui est déjà fait, quelque chose qui est déjà arrivé, quelque chose qui s'est déjà produit, quelque chose qui est déjà réalisé. Et en même temps, il parle du salut comme quelque chose à réaliser dans le futur éternel de Dieu. Il y a un futur éternel de Dieu où notre salut sera parachevé. Pas parce que notre salut est incomplet, loin de là, mais plutôt parce que notre salut est imparfait. Est-ce que ça va, frères et sœurs? Notre salut est complet, mais il est imparfait. Répétez, frères et sœurs, c'est important, c'est de la doctrine. Notre salut est complet, mais il n'est pas parfait. Il n'est pas parfait. Pourquoi? Parce que nous subissons encore dans ce monde les conséquences du péché. Parce que étant encore dans ce monde, nous pouvons pécher. Donc c'est la raison pour laquelle notre salut n'est pas parfait, même s'il est complet. Donc le jour viendra où nous ne pécherons plus. Le jour viendra où nous ne serons plus victimes des conséquences du péché. Et ce jour-là, c'est le jour de la glorification du chrétien. On parlera d'un salut parfait. La perfection n'est pas de ce monde. La perfection relève du ciel, de l'éternité. Ainsi, tant que l'Église n'est pas rentrée dans l'éternité, l'Église ne sera pas parfaite. Ça va? Maintenant, regardons dans 1 Thessaloniciens 5, versets 8 à 9. Mais avant de regarder versets 8 à 9, j'aimerais vous attirer votre attention sur le contexte. Vous allez comprendre ce que je viens de vous dire. Ça ne vient pas de moi, ça vient de la parole. La Bible s'explique par elle-même. C'est la Bible qui a l'autorité d'expliquer la Bible. Regardez ce que Paul dit ailleurs dans l'Écriture. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, il dit verset 4, je vous ai promis verset 8 à 9, mais regardons le contexte qui commence au verset 4 plus ou moins. « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » Ici, il parle du jour du Seigneur. Ça va, frères et sœurs? « Vous êtes tous des enfants de la lumière. » Et c'est-à-dire des gens sauvés, des gens ayant la vie éternelle. C'est ce que ça veut dire être enfant de lumière, par opposition à enfant des ténèbres. Voilà pourquoi l'apôtre Paul parlera plus tard de Dieu qui nous a appelés à nous faire passer des ténèbres à la merveilleuse lumière. Regardez bien cela. Et vous êtes des enfants de lumière et des enfants du jour. Le jour est associé à la lumière. Et la nuit est associée aux ténèbres, frères et sœurs. Étant des enfants de lumière, nous sommes par le fait même des enfants du jour, de jour, parce que le jour correspond à la lumière, comme la nuit correspond aux ténèbres. Et il dit, nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point alors comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment et dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Voici le verset qui nous intéresse de plus près. Verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque. Ça va? Ayant pour casque l'espérance du salut. J'aurais pu arrêter et finir de prêcher ici. Donc, l'idée de prendre le casque du salut, frères et sœurs, à la lumière de ce texte, nous montre, eh bien, comment revêtir le casque du salut. Nous pouvons voir ce matin que le casque tel que nous venons de le définir, l'assurance du salut pour maintenant, vivre dans la conviction de son salut, vivre dans l'assurance de son salut, de la vie éternelle qu'on est sauvé, et l'espérance du salut, ce que ça fait le casque du salut, nous permet de persévérer dans la foi. Avez-vous besoin de persévérer dans la foi, l'Église? Si vous avez besoin de persévérer dans la foi, eh bien, vous êtes au bon endroit ce matin parce que Dieu est en train de vous expliquer comment y parvenir, comment vous pouvez réussir à faire cela. Pour persévérer dans la foi, vous devez prendre le casque du salut. Le casque du salut, sous l'angle de l'espérance, le casque du salut également sous l'angle de l'assurance. C'est-à-dire que le fait que nous savons qu'un jour viendra, comme nous venons de le chanter d'ailleurs, que le combat prendra fin, nous encourage à combattre dans la foi, dans la persévérance, et également dans la soumission à Dieu, ou alors dans la dignité. Est-ce qu'on est d'accord avec ça, frères et sœurs? Nous savons qu'un jour, nous n'aurons pas à combattre le monde. Nous savons qu'un jour, nous n'aurons pas à combattre la chair. Nous savons qu'un jour, nous n'aurons pas à combattre le péché, parce que Dieu, eh bien, mènera notre salut à la perfection. En vivant avec cette vérité en tête, nous nous revêtons, nous prenons le casque du salut, frères et sœurs. L'apôtre Paul a fait cette même réflexion, ce même raisonnement quand il dit, si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu, nous songez, frères et sœurs, ceux qui sont aux études bibliques, que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, et moi je rajoute, pour ceux qui sont en Christ, pour la perfection, le parachèvement de leur salut, Paul dit, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Mais nous savons que non, il n'est pas question de boire, de manger et de mourir, parce que après cette vie, ce sera la vie de gloire, la vie de perfection du salut pour ceux qui sont en train de se battre maintenant aux côtés du Christ, le capitaine de l'armée céleste. Alors avec cette pensée, cette idée, ce raisonnement, cette vérité en vue, nous sommes en mesure, eh bien, de gagner des batailles, ou alors nous sommes en mesure de rester fermes lorsque l'adversaire nous vise, eh bien, à la tête, lorsque l'adversaire cible notre tête, parce que nous avons déjà cette pensée comme le casque du salut, frères et sœurs. Et lorsque l'apôtre Paul a connu ces situations, comme il explique à Éphèse, avec ce qu'il appelle des bêtes, la parole de Dieu nous montre que, avec une telle assurance, que Paul n'a pas abandonné. Donc, ce qu'il prescrit ici, comme moyen de se battre, de lutter, à savoir le casque du salut, il l'a lui-même revêtu. Est-ce que ça va, frères et sœurs? Ainsi, il n'a pas abandonné la course. Il n'a pas abandonné le combat. Il avait toujours en vue la ligne d'arrivée. Il sait que si la course a un point de départ, la même course doit nécessairement avoir une ligne d'arrivée. Et il voyait, il regardait en direction de la ligne d'arrivée, malgré tout ce qu'il avait à faire, à supporter, comme exercice, comme abstinence, etc. Et la parole de Dieu nous montre qu'il a été pressé de toute manière, mais non réduit à l'extrémité. Autrement dit, il n'a pas cédé, frères et sœurs. Le texte dit dans la détresse, mais jamais, mais non dans le désespoir de l'espoir. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non perdu. Le casque du salut, c'est un moyen pour le chrétien de se réjouir dans les épreuves. Ça va, frères et sœurs? Le casque du salut, c'est un moyen pour le chrétien de se réjouir dans les épreuves. Nous n'allons pas chercher des épreuves. Nous n'allons pas prier pour avoir des épreuves. Même si nous savons que les épreuves nous forment. Même si nous savons que les épreuves nous travaillent. Même si nous savons que les épreuves arrondissent les angles. Nous n'allons pas prier pour des épreuves. Mais la parole de Dieu nous encourage à regarder les épreuves comme un sujet de joie. Paul a parlé de cette bénédiction du salut à venir, qui l'aide et qui doit aider chaque chrétien à supporter les épreuves avec force, avec foi. Lorsqu'il dit « Nous nous glorifions », Romains 5, verset 20, « dans l'espérance de la gloire de Dieu ». Le contexte, c'est l'épreuve. Le contexte, c'est tracas. Le contexte, c'est problème. Le contexte, c'est difficulté. Mais il nous dit qu'il se glorifie dans l'espérance de la gloire de Dieu. Quel rapport ce verset a-t-il avec ce que je suis en train de parler? Mais tantôt, dans 1 Thessaloniciens 5, nous avons vu qu'il a parlé de l'espérance du salut. Et ici, il parle de l'espérance de la gloire de Dieu. L'espérance de la gloire de Dieu, c'est l'espérance du salut dont il a parlé en 1 Thessaloniciens 5, les versets 4 à 8. Est-ce que ça va, frères et sœurs? Nous nous glorifions, c'est-à-dire nous nous sentons bien, nous nous réjouissons dans l'espérance de la gloire de la gloire de Dieu. Ça veut dire que lorsque le croyant a l'assurance de la glorification future, eh bien, il prend courage dans les moments difficiles. Il sait très bien que cela ne s'arrête pas là. La vie sur cette terre n'est pas toute la vie. Non seulement Dieu peut intervenir ici-bas et maintenant, mais s'il ne le fait pas, gloire à Dieu, parce que ce ne sera pas le dernier mot. L'épreuve n'a pas le dernier mot sur ma vie. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Nous espérons en ce jour où nous deviendrons des personnes glorifiées. À chaque fois que nous pensons à ce jour pour affronter les épreuves, nous sommes en train de prendre le casque du salut. Je vous encourage à ne jamais laisser tomber, à ne jamais laisser tomber dans votre garde-robe spirituelle votre casque du salut. Le casque du salut. C'est-à-dire l'espérance chrétienne, ton espérance en vue, toujours, dans les épreuves en particulier, mais dans la joie, dans les bons moments. sachez toujours que vous êtes sauvés et qu'un jour viendra où vous serez glorifiés. Alors problème, tu ne peux pas m'avoir. Si mon espérance se limitait à la vie sur cette terre, tu m'aurais eu. Alors épreuve, je ne baisserai pas l'échine. Parce que tu n'es pas éternel. C'est ma gloire, c'est mon salut qui est éternel. Je ne baisserai pas pavillon. Parce que j'ai l'espérance de la gloire à venir. Paul ne termine pas là, car il dit, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Romains 5, verset 3 à 4. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Voyez-vous ce que ça peut faire quand nous vivons dans l'espérance du salut? Parce que je vis dans l'espérance, je prends courage dans l'épreuve. J'ai de l'espoir. L'espoir naît dans l'épreuve. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Et si je coupe l'échine, c'est là que je perds tout. En ayant l'espérance, en faisant face avec espérance, avec l'épreuve, l'espérance va grandir, frères et sœurs, en produisant la patience. Et lorsque l'espérance grandit, nous savons que nous sommes du bon côté. Dieu est avec nous. Et nous allons continuer à marcher de victoire en victoire, frères et sœurs. Quel que soit l'oratoire, famille de l'oratoire, jeune de l'oratoire, homme de l'oratoire, femme de l'oratoire, conseil de l'oratoire, diacre de l'oratoire, pasteur de l'oratoire, quelle que soit l'ampleur ou l'intensité de la difficulté, du problème, du tracas, sont pas quand même nommés. Tu ne peux même pas le nommer. Soit par crainte d'être jugé, soit par crainte d'être incompris. Tu ne peux même pas le nommer. Moi, il y en a que tu. Moi, il y a des épreuves que je ne peux pas même dire, Miketa. Ne serait-ce que pour me protéger. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Dieu le connaît. Et Dieu vous dit, la seule manière de tenir tête dans cette fournaise, c'est avec chapeau, salut sous tête. Mettez votre casque du salut. Autrement dit, sachez vous sauver et sachez que la perfection de votre salut est imminente. C'est ça que ça veut dire. Je vais vous dire ça plusieurs fois, d'accord? Quand tu fais face à des problèmes, faites face aux problèmes en enfant de Dieu. Avec la conviction que tu es l'enfant de Dieu, que tu n'es pas l'enfant des ténèbres. Que tu as fait ça ou tu as fait ça lorsque tu avais accepté Jésus comme ton sauveur. Et dans l'épreuve, il est avec toi. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? C'est ce que ça s'entend quand Saint Paul parle de casque du salut. Sachez que tu n'es pas seul dans ta difficulté. Sachez que tu n'es pas seul dans ton problème. Sachez que vous n'êtes pas seul dans cette vallée de l'ombre de la mort que tu traverses. Parce que vous êtes un enfant de Dieu. Dieu ne laisse jamais ses enfants traverser l'épreuve sans sa présence. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Quand Israël était dans le désert, à destination de Canaan, Dieu était avec Israël. Et quand il était en Égypte, Dieu était avec lui en Égypte, au point que Dieu a entendu sa voix crier sous l'effet de la persécution, sous l'effet des fardeaux que l'esclavage égyptien lui avait incombé. Dieu était là. Quand David courait devant Saül, quand David était dans les grottes, quand David a dû se réfugier chez les Philistins, vous pensez que Dieu n'était pas là? Dieu était là parce que David, c'est son choisi. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Ne pensez jamais que quand vous faites face aux difficultés, Dieu n'est pas là. Ça sert à beaucoup de choses. D'abord pour prendre courage et ensuite pour ne pas faire ce qu'un chrétien n'a pas le droit de faire. Dès que ça arrive, ou pendant la bataille, parce que tu as oublié ton identité, tu as oublié qui tu es, tu as oublié que tu es un enfant de lumière, que tu es un homme sauvé, tu as oublié que tu es un jeune sauvé, tu as oublié que tu es une église sauvée, tu as oublié que tu es une famille sauvée, tu fais des choix qui ne concordent pas avec la volonté de Dieu. C'est ce qu'on appelle, tu es victime, eh bien, de Satan. Il n'aura pas de pouvoir sur ton âme, mais tu vas devoir payer les conséquences de tes péchés. Est-ce que ça va, frères et sœurs? Et ton problème ne sera pas réglé plus que ça. Voilà pourquoi l'Église a besoin d'entrer dans le plan de Dieu pour elle ce matin, à savoir, prenez le casque du salut, frères et sœurs. Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées au salut. Quand tu dis la gloire, on me dit au salut, sous compte-moi. Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées au salut à venir. Le salut à venir, la gloire à venir, savez-vous c'est quoi? C'est un monde sans péché, sans iniquité, sans problème, sans tracas, sans maladie, sans difficulté. Quand tu es dans l'épreuve, pensez que ça va perdre dans l'épreuve là. Il n'y a pas rien comparativement à ça, gagné dans l'éternité de Dieu. Voilà ce qu'on appelle revêtir, prendre le casque du salut. Prenez par-dessus tout le casque du salut. J'ai expliqué au peuple de Dieu en introduction que le casque servait à protéger la tête du soldat romain d'une épée à double tranchant. L'adversaire a une épée à double tranchant. Double tranchant aussi. Ça va? Double tranchant. Je ne sais pas si j'aurai le temps de les regarder tous les deux. Mais je regarde d'abord le découragement. L'épée satanique, l'épée diabolique, l'épée de l'ennemi des desseins de Dieu, il gagne deux tranchants. Le découragement et le doute. Dès que vous entendez, ou dans le découragement ou dans le doute, je ne pas dire suspendre petit bon Dieu, non? Je ne peux pas prêcher deux bagailles à la fois. C'est pas ma théologie. C'est plutôt ou pas dans la vie chrétienne encore. Est-ce qu'on est là? Ou pas dans la bataille, autrement dit, ou pas dans la bataille. Le découragement. Qu'est-ce que l'Église te rapporte comme ouvrier? Tu vas entendre ça à l'oreille. Quand tu vas te coucher à la maison, sur ton lit de sommeil, il va y avoir un esprit qui va dire ça. Tu vas entendre ça. Ou un ami, ou un parent, qui viendra t'insuffler cela à l'oreille. Qu'est-ce que l'Évangile rapporte? Depuis tout ce temps que tu es malade. Depuis tout ce temps que ton mari te donne des problèmes. Depuis tout ce temps que ta femme te donne des problèmes. Tes parents, tes enfants te donnent des problèmes. Dites-vous bien, à quoi ça sert d'être chrétien? Penses-tu que ça vaut la peine de continuer la route avec le Seigneur? Tu vas entendre ça souvent à l'oreille. Ça, ces paroles ne viennent pas de Dieu. Les paroles qui viennent de Dieu, ce sont des paroles de persévérance. Quand on entend des paroles à lire, aller dans le sens de lâcher la foi, vois ça pas vine de bon Dieu. Car Dieu, dans sa parole, dit toujours, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et pourtant, de à quoi ça sert? Lâche ça donc. Qu'est-ce que tu fais là? Dieu n'a pas besoin de toi. Il n'a plus besoin de toi. S'il avait besoin de toi, il te guérirait. Il ferait avancer ton ministère, ton œuvre, ta famille. Et pourtant, de ça, cherchez côté, casse ça, lui aille, et puis mettez-le en tête. Ça va, frère et sœur? Parce que le malin est à l'œuvre. C'est lui qui est en train de parler là. Ce n'est pas Dieu. Certains sont découragés parce qu'ils sont fatigués. Ils sont fatigués avec la vie. Ils sont fatigués avec la famille. Ils sont fatigués au travail. Ça les dépasse. C'est trop pour eux. Ils n'en peuvent plus. Ils veulent lancer la serviette. Paul nous dit, fais attention. Parce que le malin, son épée, un de ses tranchants, c'est le découragement. Ça va, frères et sœurs? Dans le livre de Un Roi, vous connaissez très bien cette histoire, peut-être mieux que moi. L'auteur divin écrit au sujet de Élie le prophète. Vous vous rappelez? Élie qui a fini par être découragé, frères et sœurs. Un homme qui venait juste de remporter une grande victoire en tuant 450 prophètes de Baal, frères et sœurs. Et la parole de Dieu nous dit dans 1 Roi 5, 19, 1 à 2, 1 à 2, Akab, le roi d'Israël, rapporta à Jézabel, donc sa femme, vous vous rappelez, tout ce que Élie avait fait. Tendez, oui, frères et sœurs. Le découragement n'est pas notre meilleur ami, frères et sœurs. C'est notre pire ennemi. Est-ce que ça va? Et comment il avait tué par l'épée, en parlant de l'épée, le texte de l'Ancien Testament mentionne l'épée. Comment il avait tué par l'épée les prophètes? Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux, c'est-à-dire chacun des 450 prophètes de Baal. Élie a pris peur. Élie est paniqué. Élie est découragé, frères et sœurs. La parole de Dieu nous dit au verset 3 à 4, Élie se leva. Élie, oui, frères et sœurs. Ce n'est pas Sergo, non. Ce n'est pas David non, qui fait. Ce n'est pas nous, non. Élie, oui, frères et sœurs. L'homme qui s'est présenté devant Akab, qui dit du côté bien, il n'y aura plus de pluie, sinon qu'à ma parole, oui. Élie, oui. Élie s'en alla, frères et sœurs, pour sauver sa vie. Que le Seigneur nous en préserve, d'accord, frères et sœurs? Restons dans la maison de Dieu. Nous ne faisons pas quitter, nous ne faisons pas prêter là dans le pied de Dieu jusqu'à ce que le bénisse nous. Jusqu'à ce qu'il nous guérisse, jusqu'à ce qu'il nous délivre. Nous ne faisons pas. Élie arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, le texte dit, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme car je ne suis pas meilleur que mes pères. Élie est tellement découragé qu'il s'arroge le droit de faire la leçon à Dieu. Que le Seigneur nous préserve dans nos moments difficiles de vouloir lui faire la leçon, frères et sœurs. Ça va? Je vous dis, le découragement n'est pas le meilleur conseiller. Autrement dit, Élie se croit meilleur à Dieu en disant à Dieu qu'il n'est pas meilleur. Hein? Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il est en train de dire à Dieu qu'il est meilleur à Dieu parce qu'il montre, il dit que Dieu ne sait pas ce qu'il fait. L'instant d'un découragement, ça va, frères et sœurs. C'est un homme de Dieu, c'est un homme consacré, mais il est pris de panique. Éternel, je t'ai rendu un grand service en éliminant, ça c'est moi qui le rajoute, en éliminant les prophètes de Baal. J'ai rendu un grand service en servant ma famille avec dignité, en servant mon église, en servant mes parents, en servant mon mari avec dignité. Comment se fait-il qu'aujourd'hui ma vie soit en danger? Ça va, frère et sœur? J'ai été 40 ans pasteur, j'ai été 10 ans maestro de chorale, j'ai été 3 années moniteur d'école du dimanche. J'ai tout fait pour toi. Comment ça se fait que je suis dans ce que je suis en ce moment? Mais le message l'avait dit l'autre jour, tu es dans ce que tu es pour la gloire de Dieu. Amen. Et de pourtant, c'est pour la gloire de Dieu. Hein? Le plan de Dieu est parfait, ou mettre sûr, c'est ça ou pas, ouais, hein? C'est le plus important. Amen. Ça va, frères et sœurs? Lorsque Satan essaye de vous démoraliser avec son épée de découragement, n'oubliez jamais que le salut est plus près que l'autre ait commencé à servir mon Dieu. Ça va, frères et sœurs? N'abandonnez pas. La fin de la guerre approche. La fin de la guerre n'est pas loin. Votre service et votre service pour la gloire de Dieu, pour le Seigneur, frères et sœurs, sera coûte que coûte récompensé ici ou dans l'au-delà du Seigneur, frères et sœurs. Qu'en est-il de vous et moi? Qu'en est-il de nous? Avons-nous déjà eu l'impression que nous ne pouvons plus continuer. C'est légitime comme réflexe, mais ce n'est pas légitime comme manière de vivre. Ça va? Si ça passait dans la tête ou l'instant de matin, est-ce que je peux continuer à vivre dans la famille ça encore, avec petite ça toujours, avec madame ça toujours, dans l'église ça toujours, dans le travail ça toujours, à faire le bien toujours? Parce que Dieu dit, pratique le bien, et surtout envers les frères de la foi. Est-ce que je peux continuer, Seigneur? La parole de Dieu vous dit, oui, vous pouvez continuer, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Oui, tu peux continuer à vous montrer à la hauteur du combat auquel le Seigneur vous invite. La parole de Dieu nous dit, vous pouvez combattre jusqu'au bout. Comment? En mettant le casque du salut. Le casque du salut suppose l'assurance que vous êtes enfant de Dieu et l'assurance que Dieu mènera à la perfection votre salut. Christ reviendra, frères et sœurs. Deuxième arme, le doute. Tu n'es pas chrétien. Écoutez bien, est-ce qu'il y a un mercredi, ou un lundi, ou un jeudi, ou un vendredi, ou un samedi, que tu t'es levé après avoir lu la parole, ou après avoir entendu la parole prêchée, tu as pris la décision de dire, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. On va régler ça une fois pour toutes, la question de salut. Regardez-moi. Est-ce que tu te rappelles t'être levé un jour, et en te regardant, à la lumière de la parole de Dieu, dans le miroir de la parole de Dieu, et tu avais compris par grâce que tu es un pécheur. Un. Deux, que Dieu a œuvré pour le pardon de tes péchés. Trois, il l'a fait en Jésus-Christ. Quatre, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, par conséquent, ce que Dieu fait avec lui, par lui, en lui et pour lui, l'irréel. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Si t'as eu ces quatre réflexes, cette démarche en quatre temps dans ta vie, et tu t'es retourné à Dieu, tu t'es repenti de tes péchés, tu es sauvé. Est-ce que ça va, frères et sœurs? En étant sauvé, en ayant la vie éternelle, eh bien, la parole de Dieu nous encourage à ne jamais oublier cela. Parce que quand on oublie cela, ça fait toute la différence. Et quand on s'en rappelle, ça fait toute la différence. Quand on parle de la foi, c'est la foi qu'on est enfant de Dieu et que Dieu est capable de nous garder dans les mauvais jours, frères et sœurs. Est-ce que ça va? Donc, ne doutez jamais de votre salut. Bien sûr, l'Écriture nous invite à nous examiner nous-mêmes. Avant de passer à la table sainte du Seigneur, je vais convier moi aussi, à nous examiner devant Dieu à la lumière de sa parole. Mais cet examen ne vise pas à se demander, Seigneur, suis-je sauvé ou pas? Mes péchés sont-ils pardonnés ou pas? Tu es déjà sauvé et tes péchés sont déjà pardonnés. C'est pour savoir où est-ce que tu es dans ton salut. Où est-ce que tu es avec Dieu? C'est la raison pour laquelle nous faisons des examens de ce genre, frères et sœurs. Alors, l'appel de Dieu sur ta vie, sachez cela, ne peut être révoqué pour rien au monde. Ça va? L'appel de Dieu sur ta vie ne peut être révoqué pour rien au monde. Premièrement, l'héritage de Dieu ne peut se flétrir pour rien au monde. Le fondement de ton salut ne peut être ébranlé pour rien au monde. Et le sceau du Saint-Esprit par lequel tu es scellé ne peut s'effacer pour rien au monde. C'est un sceau ineffaçable ou alors un sceau indélébile. Est-ce que ça va, frères et sœurs? Vous êtes gravés dans les mains de Dieu. Laissez-moi vous laisser avec ce verset qui nous dit. Mes brebis entendent ma voix. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Je termine, c'est promis. Je les connais. Et elles me suivent. Brebis, c'est l'Église. C'est Sœur Santa. C'est Sergo. C'est Jeudi. C'est Adouin. C'est tout le monde qui l'a. C'est ça que brebis. Ça va, frères et sœurs? Mes brebis entendent ma voix. je les connais et elles me suivent. Ou par contre, ça, Jésus voulait dire, elles me suivent. Elles ne peuvent pas ne pas me suivre. Est-ce que ça va, frères et sœurs? Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Comme si ce n'était pas assez ou clair, le Fils de Dieu en rajoute en disant, et personne ne les ravira demain. Voilà la vie. Personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Laissez-moi vous dire, l'Église, vous êtes entre les mains du Seigneur Jésus-Christ et vous êtes entre les mains de Dieu le Père. Jésus-Christ comme votre pasteur et Dieu le Père comme votre protecteur. Le premier caractère du berger, eh bien, c'est que il est capable de protéger ses brebis. Deuxième caractère, c'est le caractère de la brebis qui fonde notre salut. Au verset 27 du texte de Jean 10, Jésus dit que ses brebis le suivent sans exception. Les brebis n'écoutent pas les étrangers. Ils écoutent le berger. Un troisième pilier du salut, du casque du salut à revêtir de la vie éternelle, c'est au verset 28. Je leur donne la vie éternelle. Frères et sœurs, quand vous dites la vie éternelle, est-ce que vous réfléchissez assez quand vous dites la vie éternelle? Combien de temps, je ne vais pas compter, même si je suis professeur arithmétique, frères et sœurs, combien de temps la vie éternelle durait? Dis-moi. Dis-moi combien de temps la vie éternelle durait? La vie éternelle est éternelle. Donc c'est une vie pour tout. Lorsque fait face à un problème, dit que vous sauvez pour toujours. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas petit bon Dieu pour rencontrer un problème. Vous n'avez pas qu'à tes petit bon Dieu au moment, et puis on l'autre, vous n'avez pas petit bon Dieu, hein? Ou petit bon Dieu éternellement, parce que la vie que Dieu te donne, ce n'est pas un siècle, ce n'est pas un millénaire, c'est une éternité. Restons avec ces paroles dans nos cœurs. Et demandons à Dieu de nous faire la grâce de pouvoir toujours porter le casque du salut. Je vous le souhaite, l'oratoire, en cette fin d'année qui s'amorce. Ce n'est pas encore la toute fin, l'extrême fin, mais on y arrive là. On y avance. En ce début de fin d'année, oui, voilà, ça se dit. En ce début de fin d'année, je vous encourage. Pas jamais quitter casse à tomber de tête. Ça va, frère et sœur? C'est ça que je souhaite pour vous-même. Que bon Dieu nous bénisse.